Parfois, l'archive permet de se rendre compte de la vivacité d'une pensée développée il y a déjà des dizaines d'années, de la vivacité, de son caractère extrêmement contemporain, de l'urgence qu'elle a conservée. C'est le cas ici. Depuis les images des années 60 évoquant la création de la revue et du mouvement tel quel, en passant par un film muet et mystérieux d'un voyage en Chine au milieu des années 70 ou encore une interview de 1976, Tribune Livre à la télévision, qui rapproche dans une densité de verbes, l'expérience à la limite du langage que sont l'enfance et la psychanalyse et la révolte politique. Tout semble dépliable à l'infini dans cette pensée que l'on aborde par morceaux brefs et incandescents. Bien sûr, on y retrouve ce qui se place au cœur de votre pensée et de votre vie plus essentiellement, cette idée d'étrange étrangeté à partir de laquelle, si l'on est en mesure de l'habiter, on peut construire toute une existence. Julia Kristeva, un coffret, Ina, réunit plusieurs heures d'archives évoquant votre parcours depuis votre enfance bulgare à votre arrivée en France en 1966, votre découverte de l'Amérique, et la façon dont certains des concepts que vous avez développés, enjambant allègrement et joyeusement les cadres étriqués des disciplines, ont marqué à la fois la psychanalyse, la linguistique, la philosophie, la théorie littéraire et j'en passe. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour et merci.
Qui haïssez-vous ? Qui détestez-vous ?
Bien, peut-être est-ce plus difficile à définir, mais ça paraît plus facile. Tout d'abord, les faux-semblants, ceux qui, sous couvert de littérature, ceux qui se présentent comme étant de la littérature et qui n'est en réalité qu'un journalisme
déguisé. Oui, enfin, je crois que tel quel a eu ceci de particulier, que c'est une revue qui a été fondée, en somme, contre l'esprit de vulgarisation, si vous voulez. Et aucune revue ne nous satisfaisait, aucune revue ne nous paraissait au fond assez rigoureuse, donnait la place aux textes assez formés que nous souhaitions lire. Et nous avons fait cette revue au fond pour obtenir une revue où nous pourrions lire des textes qui nous intéresseraient.
On est en 1963, l'image est délicieuse en noir et blanc, ils sont dans une cour d'école, ils sont assis pour certains, debout pour d'autres. Ce sont les membres fondateurs du mouvement et de la revue telle qu'elle. Vous arrivez en France 3 ans après. Qu'est-ce qui a trouvé écho chez vous dans ce mouvement-là ?
Je suis très contente de savoir que les créateurs de ce DVD ont choisi cette archive que je ne connaissais pas. Et ça me renvoie en effet à une association que je trouve souvent aujourd'hui, à savoir que je fais partie de tel quel, ce qui n'est pas vraiment le cas. Je me suis associée à eux ultérieurement et j'ai même participé à un certain nombre de numéros, mais ce n'est pas vraiment mon histoire. Il se trouve, et vous venez de le dire, que j'étais fascinée par leur manière de faire la littérature que je ne connaissais pas en étant en Bulgarie. Donc il y a 3 ans qui séparent cette archive de mon arrivée en France. Dans les pays de l'Est, on n'avait pas accès à ces modernités. Mais en arrivant en France, j'ai lu d'abord dans la revue Clarté, je crois, de la jeunesse communiste, un entretien de Philippe Solers que j'ai trouvé très beau. Il était tourné avec son plus beau profil et il expliquait combien les mouvements sociaux, les transformations sociales sont liées aux transformations du langage et des genres littéraires. Et je trouvais que ça me parlait beaucoup, non seulement parce qu'il y avait là un écho des surréalistes déjà, qui étaient un peu sur les mêmes ondes, mais aussi on trouvait ces idées chez les formalistes russes et en particulier les avant-gardes littéraires tels que Mayakovsky ou Khlebnikov autour des formalistes russes. Je dis très rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas tout ça, les formalistes russes sont les ancêtres du structuralisme, mais contrairement aux structuralistes français qui étaient plutôt très universitaires, les formalistes russes étaient très en relation avec ces poètes révolutionnaires et qui révolutionnaient le langage pour toucher le tissu social. Et il m'a semblé que dans tel quel, et en tout cas dans l'entreprise entretien que Solers donnait dans Clarté, il y avait cette idée qu'on ne peut pas changer la société française,
si on touche pas le langage,
soit, si on ne modifie pas la position que nous avons en parlant. Et ça ne veut pas dire inventer des néologismes, mais ça veut dire relire la mémoire littéraire, la tradition culturelle française, choisir des lieux majestueux et névralgique et scandaleux de cette histoire. Et là, ils font allusion à cela. C'était Sade, c'était Artaud, c'était Bataille, puis Joyce, pour ce qui est de la culture extérieure en langue anglaise, c'était Faulkner. Ça sera après Hölderlin ou Heidegger. Et donc, toute cette réappropriation de la mémoire à travers la langue et les genres littéraires touche à la culture. C'est un phénomène qui me paraît, moi, à reprendre et à repenser aujourd'hui, parce qu'il y a deux solutions devant des états de crise. Soit on sombre dans l'apocalypse, soit on se dit, mais comment on rebondit ? Et révolte et révolution, ça veut dire justement retournement, mais retournement à partir de ses propres profondeurs et sa propre mémoire. C'est une expérience intérieure extrêmement importante. Et les révolutions qui ne font pas cette expérience intérieure s'enlisent, se verrouillent, se cadenassent dans des gestions, dans des clichés, dans des oukases et parfois dans du terrorisme, bien souvent. Donc cet aspect de remise en cause de soi, comme acte fondateur, comme respiration du tissu social et comme fondement de toute innovation, quelle qu'elle soit, ça me paraît quelque chose à faire entendre encore aujourd'hui, où on croit que tout va se régler si le gouvernement fait la bonne loi et si j'envoie le bon SMS. Mais si je ne fais pas un travail sur moi-même, si je ne ramasse pas mémoire et celle de mes ancêtres, et si je ne l'innove pas en la modifiant selon les conditions actuelles et à partir d'une expérience nouvelle, la société ne vit pas et ne se transforme pas. Et donc, je me suis mise à lire ce qu'il lisait et approfondir ma propre culture. Et après, la vie continue.
C'est un moment serein, 1966, quand vous arrivez en France, parce que vous avez écrit par la suite, évidemment, nombre de textes qui faisaient référence à l'étrangeté, à l'étrange étrangeté, comme un endroit plutôt positif à habiter, comme un endroit véritablement à investir, un endroit d'où l'on peut construire une existence. Est-ce que ça a toujours été un endroit positif pour vous ?
Oh non, l'exil est toujours une souffrance. Et pour moi, ça a commencé par une grande déception. Mon premier roman, qui s'appelle Samouraï, raconte l'arrivée d'une personne qui me ressemble, qui s'appelle Olga. Elle arrive à Paris à la veille de Noël. En ce qui me concerne, c'était Noël 65. Et il y a des histoires compliquées avec mon arrivée, mais je ne vous parle pas de ça. Je vous dis simplement l'image que lui donne Paris. Elle avait lu Paris tel que le présente la presse Style Vogue ou autre revue Glamour. Et elle tombe dans une ville, tombée c'est le cas de le dire, qui est couverte de neige. Les Français ne savent pas déblayer la neige. Tout fond après, on marche dans la boue et les gens ne sont pas bien habillés et tout le monde est pauvre, au moins c'est ce qu'on voit dans les rues. Elle est extrêmement déçue, il n'y a pas de ville lumière. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais évidemment, je suis parmi les étrangers qui vivent en France, peut-être celle qui donne une des images les plus intégrées. Mais j'ai toujours senti une impossibilité pour l'étranger de vivre en France.
Vous dites qu'il n'y a pas d'endroit où on peut se sentir plus étranger qu'en France.
Oui, j'ai dit ça dans un livre qui s'appelle « Étranger à nous-mêmes ». Et je dis nulle part on n'est plus étranger qu'en France. Et nulle part on n'est mieux étranger qu'en France. Oui, je crois qu'il y a une espèce de barricade de culture et d'institutions qui rejette le français,
qui rejette
l'étranger en France, que fait que le français rejette l'étranger. Et c'est peut-être dû à la longue tradition qui va de la royauté et se termine dans les académies, qui idéalise la langue. Il y a un côté fier de tous ces Français qui ont fait des croisades, qui ont conquis le monde, qui ont fait les cathédrales et puis qui se sont retirés à la campagne. Ils trouvent quand même que la France est une grande puissance alors qu'il n'y a qu'eux qui y croient. Et tout ça reste valable. Même si j'ai une certaine place dans l'université, Moi, j'ai toujours l'impression que je suis une intruse. Et c'est plutôt aux États-Unis ou maintenant en Chine que je sens une écoute et que mon travail est discuté ailleurs. Mais je dis ça non pas pour me plaindre, mais parce que encore une fois, personne ou très peu de gens de l'immigration sont aussi bien accueillis que moi. Mais c'est pour sentir quelque chose et faire sentir quelque chose et lui dire même aux jeunes. Par exemple, quand des étudiants étrangers viennent parler dans mes cours et ils ont un accent parfois difficile, difficile à comprendre. La salle se vide, on ne les écoute pas. C'est impossible dans un cours aux États-Unis ou en Angleterre. Il y a une plus grande tolérance ailleurs vis-à-vis de cela. Et on en arrive à ce qui se passe dans les banlieues, etc. Là, il y a un grand problème dans l'accueil de l'étranger en France. Par contre, c'est une attitude, celle dont je viens de faire part, qui est plutôt viscérale, je dirais, quelque chose de presque inconscient. Par contre, il y a un forum intellectuel qui est issu des Lumières et qui fait que, y compris ces situations-là, deviennent un objet de débat. On en parle, on va en discuter plus qu'ailleurs, on va approfondir plus qu'ailleurs. Et peut-être c'est ici qu'on peut trouver meilleur remède. Donc voilà, on n'est nulle part pire, mais on est nulle part mieux.
Dans quelle mesure est-ce que ce déplacement géographique-là, cet exil et du coup cette situation d'étrangère dans un premier temps au milieu des années 60 fondent votre rapport à l'analyse ensuite ? Dans quelle mesure est-ce que ça le teinte ?
Oui, c'est une bonne question. Vous savez, quand on fait une analyse, on ne sait jamais quelle est la vraie raison. Moi, je suis allée voir d'abord Lacan et après une autre personne après notre retour de Chine, dont vous avez évoqué
le fait qu'il
y a un petit
8,
film en Super 8, oui, que j'ai fait en partie, enfin cette partie-là, je crois qu'il est dans le film, notre partie était faite par Solers. Donc je suis allée en analyse parce que j'avais perçu l'inanité du discours politique. Pour aller en Chine et même avant, et dans ce souci de m'approprier la culture avant de la juger. J'ai fait une licence de chinois, que je n'ai pas finalisée, mais j'ai beaucoup appris de la langue. Et je suis partie en Chine avec un désir de voir comment une culture différente, une langue différente, qui a des tonalités, une musique, qui a une gestualité dans l'écriture, peut aborder des solutions sociales que nous avons apportées, parmi lesquelles le socialisme, parmi lesquelles le communisme. Et quelle est la place des femmes ? Du sujet de ce type que je continue à creuser. Et j'étais très déçue du fait qu'ils ne s'appuyaient pas justement sur leur tradition, mais ils adoptaient les clichés staliniens qu'ils critiquaient par ailleurs. Donc j'ai décidé que la vie est courte et je n'ai pas le temps de débroussailler tout cela, mais que je vais m'enfermer dans le microcosme de la talking cure, comme dit Freud, c'est-à-dire de la cure par la parole, et essayer de rencontrer le malaise social dans l'intimité. Alors, le malaise social devait avoir un rapport sans doute avec l'exil, que vous venez de pointer. Toute forme d'exclusion aussi, parce que j'avais entendu déjà, par mon travail de linguiste, des états limites du langage dans la psychose, qui commençaient à être abordés à travers les psychanalystes issus de Lacan et d'autres. C'était le moment du désenfermement de la folie. On s'intéressait au discours fou, pourquoi il est fou, qu'est-ce que la psychose dans le langage, etc. Et j'ai pensé que je pouvais aborder ces états limites de la personne et jusqu'à la folie à travers le langage, mais pas en restant linguiste ou littéraire comme je l'étais, mais en allant du côté de la psychanalyse. Aussi, et pour revenir à tel quel, les expériences littéraires d'avant-garde, à commencer par celles du XIXe siècle, avec Mallarmé, avec Lautréamont, qui sont devenus des sujets de ma thèse d'État. Ce sont des expériences qui sont parfois reçues par la culture, on va dire de masse, comme incompréhensibles, comme ésotériques. Et quand on les lit de près, on entend qu'il s'agit de traversée de la dépression ou de la traversée de la psychose. Et donc, en tant que déjà littéraire, ça m'intéressait d'aller sonder un peu les choses de ce côté-là et de dépasser les disciplines classiques d'une université vieillotte et qui dit que linguistique, c'est ça, et la littérature, c'est ça, et la théorie littéraire, c'est ça. Et donc, on empêchait le voyage des disciplines et ce qu'on appelle maintenant l'interdisciplinarité. Et donc, la psychanalyse m'est apparue comme le lieu pratique, presque le laboratoire personnel, où je pouvais me mettre, moi, en voyage à travers mes limites et à travers les disciplines. Et donc, j'ai commencé à faire une analyse pour des raisons, on va dire, épistémologiques, théoriques, pour voir comment on pensait le monde, la langue, la littérature, avant de me rendre compte assez rapidement que j'avais mes fragilités à moi, et surtout du côté du fait que je suis plutôt une fille du père, et que maman a été vite traversée, qu'il fallait que je m'approprie un féminin m'abrite beaucoup maintenant et auquel je dois énormément.
Du coup, je vais prolonger ma question et dire, dans quelle mesure est-ce que cet exil et cette première idée de l'étrange étrangeté a teinté votre pratique en tant que psychanalyste maintenant ? Parce que vous écrivez souvent la façon dont vous vous mettez d'abord en symbiose, puis vous vous mettez à distance de l'étrangeté de l'autre. Mais est-ce que l'expérience primordiale de l'exil n'a pas facilité ce rapport à l'étrangeté de l'autre ?
L'analyse demande en effet une souplesse psychique. Cela demande la capacité de faire presque un lien osmotique avec le mal-être de la personne qui nous fait confiance.
Pour le défaire.
Pour le défaire. Pour le défaire ou surtout plutôt pour l'élucider, pour lui donner un sens que j'appelle moi un pardon. Pardon. Vous savez, Hannah Arendt, qui m'a beaucoup intéressée, s'est beaucoup intéressée à la fin de sa vie à des thèmes qui sont théologiques, comme la promesse et le pardon, et elle se demandait quelles peuvent être les incidences politiques de ces expériences qu'on trouve dans le judaïsme, dans le christianisme. Et je me suis beaucoup intéressée à cela aussi. Et pour moi, l'interprétation en analyse est une sorte de pardon. Ce qui ne veut pas dire qu'on enlève le mal, ni qu'on dit qu'il n'y a pas de mal, ni mal psychique, ni traumatisme, ni viol, ni crime qui a été subi ou que vous avez fait, vous, analysant, qui vient de se confier. Mais en essayant d'en trouver le sens, ensemble, par mon interprétation et par votre réaction à mon interprétation, c'est cette élucidation qui est la forme laïque du pardon. Et je trouve que c'est très intéressant comme changement du régime culturel. C'est-à-dire que nous sommes la seule civilisation, nous, la sécularisation, qui a rompu le fil avec la tradition, avec la religion. Et moi, je suis parmi les rares athées, paraît-il, qui existent encore, parce que, comme le disait Nietzsche, j'ai mis un grand point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux, c'est-à-dire Dieu. Question. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Je pense plutôt qu'il n'existe pas, mais il faut que chacun trouve la réponse. Interrogeons. Et c'est cette capacité de faire une recherche de ce qui vous a traumatisé, qui me paraît notre réponse au dogmatisme, à la fois intégriste et dogmatique. Pas le refus de la croyance, pas le refus du religieux, mais la mise en question, l'interrogation, comme la seule révolte possible et comme une mentalité qui n'est pas nouvelle, parce qu'on a toujours été capable de cela, mais qu'on pourrait enrichir, développer et mettre au centre. Je termine là-dessus. J'étais récemment en Argentine et j'ai trouvé un président d'université qui s'occupe d'universités style nouvelles universités en France comme Saint-Denis ou Nanterre qui ont beaucoup de jeunes d'immigration ou d'autres défavorisés et qui vivent dans des zones où il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de prostitution, de criminalité même. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites avec eux? Est-ce que vous leur donnez de la dignité? Parce que ce qu'on nous dit au Brésil, on rend de la dignité à ces gens-là. Il me dit, ben oui, mais c'est très bien la dignité, mais je veux les transformer en chercheurs. Parce qu'ils ont vendu de la drogue, ils font une thèse sur le fait de savoir pourquoi ils ont été là, d'où ça vient, ou la criminalité, qu'est-ce que ça veut dire. Ils font des thèses en sociologie, en psycho, etc. Je dis, mais c'est formidable, ça. Comment ça vous est venu, cette idée? Quelle était votre formation, monsieur le président? Il était très gêné, puis il me dit, oh, vous savez, moi, j'ai fait une thèse de théologie, j'ai fait ma thèse sur Maître Eckhart. Et Maître Eckhart, c'est ce grand mystique allemand qui a écrit énormément des choses, mais entre autres, il a dit « Je demande à Dieu de me laisser libre de Dieu ». Et je crois qu'on est à ce moment maintenant de la mentalité et de la philosophie, qu'on prenne les grandes valeurs pour être libre de ces valeurs et pour les interroger sans fin.
Dans la cité où nous sommes tous, c'est-à-dire en politique, cette refonte sacrée profane que psychanalyse et art moderne cherchent chacun à sa façon se manifeste, je pense, par la révolte. Ni utopique, ni aberrante, ni exceptionnelle, comme on pouvait le penser, la révolte politique apparaît dans notre époque comme la manifestation la plus radicale de l'être parlant. Ce moment où l'on dit que ce n'est pas ça, que ce n'est pas assez. Un moment qui défie le pouvoir, moment irreprésentable, moment de vérité, avant qu'un nouveau pouvoir ne s'institue. Eh bien, il rappelle le geste de l'enfant qui ose dire que le roi est nu, ou bien le geste de l'artiste qui casse l'ancienne représentation. Le fait que, tout en étant immanquablement pris dans les institutions, nous pouvons non pas les prendre, mais les refuser positivement, les contester sans cesse pour les pousser plus loin ou ailleurs, ce fait est devenu, on peut le dire, dans notre époque, un phénomène de masse, de la Commune de Paris à mai 68. Et en tant que tel, ces phénomènes mettent en cause, au-delà du pouvoir, la possibilité même des êtres parlants de former société, ce qui ne s'était jamais fait à cette échelle.
Là, on est en 1976, vous êtes en France depuis 10 ans, c'est votre voix qu'on entend, c'était il y a plus de 35 ans maintenant. Vous rapprochez cette expérience à la limite du langage, vous parlez précédemment dans cette interview de l'analyse, de l'enfance, du rapport, du frottement entre sacré et profane, du frottement entre nature et culture, pour arriver à la révolte, qui et finalement se trouve au cœur de ce propos-là. Dans quelle manière est-ce que vous avez déplié cette idée de la révolte ensuite dans votre œuvre de pensée et dans votre parcours de femme et d'être ?
Oui, en écoutant cet extrait, qui est un entretien que je fais avec un étudiant remarquable que j'avais, qui est devenu un écrivain culte à un moment donné et qui est décédé, Frédéric Berthet, je me suis dit, mais je n'ai pas beaucoup changé, je répète toujours la même chose. C'est la même voix, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui j'ai une voix cassée par un rhume qui ne me quitte pas, mais aussi bien la tonalité, un état de santé conquise et reconquise sera pareil, et surtout le contenu est le même. Il vient de paraître un livre qui est écrit un peu plus tard, mais qui s'appelle « L'avenir d'une révolte », qui est republié maintenant par Flammarion, et où je développe les mêmes idées, en rappelant en particulier que le mot « révolte » remonte, c'est la linguiste qui vous parle, à la racine sanscrite « vel », qui veut dire « retournement et découvrement ». Donc il faut passer vers le passé, s'approprier le passé pour ouvrir un nouveau présent. Ce remaniement, cette transvaluation des valeurs, ce retournement que je veux, moi, interne, mais qui peut toucher aussi les institutions. Et d'ailleurs, par exemple, le mot volume vient de là, on tourne les pages. Et la voiture Volvo qui tourne, c'est ça. Mais enfin, moi, j'essaye de tourner les choses à ma façon et même de changer un peu le style de retournement. L'entretien que vous avez passé se situe à une époque où mon ancrage dans la psychanalyse était assez superficiel et mon discours était beaucoup plus abstrait, conceptuel. Je crois que la période analytique était très importante, mon passage sur le divan.
En sens qu'elle ancre une expérience.
C'est une expérience, en effet, où on s'approprie son passé, son enfance, et on essaie de le communiquer, de le partager avec quelqu'un d'autre, tout en l'analysant, en écoutant les scansions, les remises en place, les remises en question de l'analyste. Et pour moi, c'était très important parce que j'avais appris le français très jeune. Mes parents m'avaient inscrite à l'école maternelle des Dominicaines, qui nous apprenait à faire les références, mais aussi Hugo et Colette, c'était pas tellement religieux. Mais c'était quand même une seconde langue. Et le fait de parler de mon enfance en français avec une analyste, devant une analyste et une femme qui était d'ailleurs d'origine, qui est toujours là, d'origine allemande, dans une sorte de polyphonie comme ça de langue, de faire tout ça en français, c'était une manière de m'approprier ma propre enfance, de devenir un bébé français, en quelque sorte. Et peut-être, après, il y a eu la naissance de notre fils avec Philippe Solers, donc j'ai appris le français avec David, notre fils en français, on a eu des jouets, des maladies, des renaissances, de l'école et tout ça. Cela m'a donné peut-être un peu plus d'assurance dans l'audace d'être plus proche de mes affects et de mes sensations et d'écrire dans une langue qui est moins abstraite et plus proche du vécu quotidien, ce qui a donné lieu à des romans dont Les Samouraïs dont je parlais tout à l'heure, mais un autre qui s'appelle Possession, et la figure principale est une femme qui a la tête coupée, qui me représente, qui est décapitée, et ça renvoie à la souffrance des femmes de tête aujourd'hui qui font tout et qui savent plus où donner de la tête, enfin c'est assez ironique aussi, et ainsi de suite. Donc ça continue dans une veine romanesque, cette révolte un peu atterrie dans le corps et dans le sensible. Ensuite, j'ai pris des thèmes dans les essais eux-mêmes qui sont moins techniques, moins sémiologiques ou littéraires. Histoire d'amour, par exemple, l'histoire de l'amour en Occident, ou le pouvoir de l'horreur, les questions du mal, les questions des compromis avec Céline comme figure de proue dans cette affaire-là. Puis je me suis intéressée beaucoup à la révolte, le génie féminin avec Arendt, Melanie Klein et Colette. Ce fut un grand moment aussi pour revenir à cette transvaluation de la mémoire culturelle et religieuse. J'ai passé 10 ans en colocation avec Thérèse Davila. Nous sommes en train d'imaginer peut-être une émission radiophonique, un théâtre radiophonique sur la dernière partie de ce livre qui est son agonie, où elle raconte sa vie et qui m'a permis de voir dans cette femme du passé quelqu'un qui peut être notre contemporain ou contemporaine et qui montre en quoi l'idée du féminisme, si on ne l'enferme pas dans une revendication militante, peut nous conduire à nous poser des questions sur l'histoire des religions. Comment on a passé le rapport au père, la question de la maternité, judaïsme et christianisme. Elle a été marraine du côté de son père, chrétienne vieille du côté de sa mère. Et comment tout ça, nous, en cherchant notre propre polyvalence, notre propre polytopie, peut nous conduire à réévaluer les histoires familiales, etc. Et puis la question de la maternité. Moi, je suis une fanatique de l'amour maternel.
Ça veut dire quoi, une fanatique de l'amour maternel ?
Mais ça veut dire que, généralement, comme vous le savez, le féminisme s'est construit en stigmatisant la maternité comme un esclavage, une soumission au père phallique et la mère au foyer, et donc une espèce de piège pour les femmes. Et maintenant, depuis quelque temps, il y a quand même un dégagement qui conduit certaines féministes à penser la maternité, mais ce n'est pas si facile que ça. Et face au fait que l'expérience de la maternité dans la crise devient parfois un retour aux formes conventionnelles, un peu rétrogrades, on se méfie un peu de ce domaine et on n'en parle pas. Tout le monde veut être mère, mais on préfère ne pas en parler. Et nous sommes la seule civilisation qui n'a pas de discours sur la maternité. Les gens croient ce que c'est, ils croient savoir ce que c'est la mère juive ou peut-être la Vierge Marie, mais la mère aujourd'hui qui est amante, qui est femme professionnelle, qui fait la cuisine et le marché et qui travaille tout le temps et qui voyage et qui n'a plus de temps et qui est en plus mère, on ne sait pas très bien ce que c'est. Sans parler des femmes des quartiers qui ont énormément de tâches qu'elles sont incapables d'accomplir. Donc, dans ma société psychanalytique, on a fait un grand colloque l'année dernière sur la maternité et je propose de penser qu'il existe un amour maternel qui est une sorte d'érotisme qui suppose énormément de violence, mais qui suppose aussi une capacité de transmission et un lien très fort qui est l'aurore de l'amour. C'est le degré zéro de l'amour.
Ce que vous appelez abjection ? Ce que vous appelez cette
l'abjection, relation de l'abjet ? C'est le côté violence, oui. Ça, je l'avais développé déjà dans le livre Les questions de Céline. Et lui, il a beaucoup prospecté cette relation entre le fils et la mère dans une violence où ils vomissent tous les deux sur le pont de Londres ou dans des bateaux. Tout ça se vautre dans la violence. Et Céline a très bien vu ces états limites de la confrontation avec le maternel qui peut être odieux et qui peut contaminer l'enfant. Mais il y a l'autre aspect, il ne faut pas dénier celui-là. Malgré tout cela, les mères arrivent quand même à transmettre de la culture, du langage et même de l'ironie. Et j'appelle ça une reliance qui ressemble à la religion, mais qui est, je pense, le degré zéro du besoin de croire, le besoin de se délaisser dans les bras de quelqu'un qui est d'abord la mère et puis une identification paternelle, mais c'est une autre histoire.
Julia Kristeva, quelle que soit la théorie que vous développez, à chaque fois elle n'est jamais loin de la création, elle est toujours proche de l'invention, elle est toujours proche de ce que vous appelez cette renaissance, cette révolte qui est toujours une renaissance, et la poésie n'est jamais loin. Il se trouve qu'à cette heure-là, elle est toujours proche de nous aussi, 16h50, et qu'on écoute en ce moment la poésie d'Emily Dickinson. Deux poèmes sont choisis aujourd'hui dans le recueil Le Paradis est au choix, et ils nous sont lus par Françoise Gillard et Cécile Brune de la Comédie Française. On écoute.
Sa dernière nuit de vivante. C'était une nuit comme les autres. Sauf qu'elle mourait, et cela changeait pour nous l'aspect des choses. Nous remarquions les plus menus, auparavant inaperçus. Cette grande clarté sur nos esprits les mettait comme en italique. Comme nous allions et venions entre sa chambre finale et les chambres où ceux qui seraient vivants demain étaient. Un blâme. À l'idée que les autres pussent vivre alors que tout était fini pour elle. Une jalousie dans l'air envers elle, si proche de l'infini. Nous avons attendu qu'elle franchisse le pas. Un moment étroit, nos âmes, trop bousculées pour parler. Enfin la vie est arrivée.
Il y a une solitude de l'espace, une solitude de la mer, une solitude de la mort, mais toutes seront jeu de société en face de ce site plus profond, de cette intimité polaire où une âme se boucle avec elle-même. Infinité finie.
Agitata, tu vai. capo. Giazza, aspetta, non frega.
Julia Kristeva, c'est vous qui avez voulu faire entendre Cecilia Bartoli chantant du Vivaldi. Pourquoi ?
Parce que avec Mélie Dickinson, nous sommes arrêtés à un moment qui est très important dans le mouvement de la révolte, c'est-à-dire le moment où on perçoit le négatif, on perçoit l'impossible et on est dans un état de non-sens qui congèle la personne et qui se complaît dans cette congélation. C'est la dépression impuissante qui est la proximité avec la mort. La politique est devenue maintenant une gestion de la dépression. Elle se prive de ce que l'art et l'expérience intérieure de certains d'entre nous peut avoir comme traversée de la dépression. C'est possible. Et c'est pourquoi j'ai choisi des artistes comme Colette, par exemple, et pour la fin de notre émission, quelqu'un qui, de manière encore plus magistrale, exprime ça, et qui est Cecilia Bartoli. C'est-à-dire que dépression, oui, mortalité, oui. Moi, ça m'intéresse beaucoup, notamment avec le handicap qui nous confronte à ça. Il ne s'agit pas de dénier cela. Mais quand on a bu le calice jusqu'à la lie, on peut rebondir. Et Colette dit « La mort est une banale défaite. Le grand mystère de la vie, c'est la naissance. » Et pour finir, elle a ce slogan que j'aimerais bien écrire sur ma tombe « Renaître n'a jamais été au-dessus de nos forces, de mes forces. » Mais Cecilia le fait entendre très bien. Elle chante une histoire de naufrage. Et quand vous entendez le mot « naufragar », on a l'impression qu'il n'y a pas de naufrage, mais qu'elle s'envole au ciel, elle nage tous azimuts, elle est pleine de la chair du monde qu'elle mange dans son souffle, qu'elle savoure dans les consonnes et les voyelles, une espèce de puissance que le féminin émancipé peut porter au monde de ces messieurs obsessionnels, obsédés par les lois et manquants de souffle, justement.
C'est simplement un trait d'ironie, cette idée de renaître n'est pas au-dessus de mes forces sur la tombe, ou ça relève de la croyance pour vous ?
Renaître, pour moi, n'est pas... Vous savez, Mayakovsky croyait à la Renaissance. Je ne pense pas qu'il était un croyant. Moi non plus. Mais c'est une métaphore qui veut dire transmission, qui veut dire renouvellement, qui veut dire laisser des messages de recommencement et non pas de complaisance avec la mortalité.
Tout cela et bien d'autres choses, alors on pourra les rencontrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par brefs morceaux, incandescents certes, mais brefs morceaux tout de même dans ces magnifiques archives qui sont réunies dans le coffret INA, ça s'appelle simplement Julia Kristeva, et puis vous parliez aussi de la reparution en poche de l'avenir d'une révolte chez Flammarion au Champ Essai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci de votre attention.